7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Journée mondiale du lavage des mains aujourd'hui. Une journée qui pose forcément la question de l'accès à l'eau et à l'assainissement. En ces temps de pandémie, rappelons que 80% des infections se propagent par les mains. Et quand on parle d'accès à l'eau, c'est aussi boire une eau potable. Or, seulement 24% de la population africaine a un accès à une source sûre d'eau potable. 72% de la population du continent n'a pas accès aux toilettes, donc aux latrines. Alors, comment faciliter l'accès à l'eau pour tous, pour boire, pour se laver et pour évacuer en toute sécurité et dignité? Un sujet trivial pour les politiques, encore trop trivial et pourtant vital pour la majorité des habitants. C'est pourquoi on va plonger dans les eaux sales pour se poser de vraies questions. Comment financer l'accès à l'eau? Quel prix décent pour les usagers modestes? Et dans ce cas aussi, quel prix pour l'ensemble des citoyens? Les voisins et les voisines, racontez-nous dans quelles conditions vous avez accès à l'eau, borne fontaine, puis robinet dans l'habitation. Combien vous payez pour ce service? Rappelons qu'à l'heure actuelle, c'est dans les pays riches que l'eau est la moins chère du monde. Vos appels au 33 7 64 45 51 41. Je vous présente nos invités dans le studio des 7 milliards de voisins. Sandra Métayer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordinatrice de la coalition Eau. C'est le réseau des ONG françaises engagées pour un accès universel à l'eau et à l'assainissement aussi. Hein. Il faut bien évacuer les eaux usées. C'est important pour la santé de tous. Et c'est le 10e anniversaire du droit à l'eau et à l'assainissement reconnu par les Nations Unies. On essaiera de voir un peu ce qui a bougé ou pas. En 10 ans, Thierry Bellassène, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des opérations de solidarité internationale. C'est une ONG spécialisée dans les zones en conflit, notamment sur les questions d'accès à l'eau, d'assainissement et de sécurité alimentaire. Et puis on sera aussi en ligne à Ouagadougou, Burkina Faso, avec Rukiatou Ouédraogo, qui est responsable plaidoyer pour le secrétariat permanent des ONG, en particulier sur le droit à l'eau et à l'assainissement. Et bien sûr, les voisins et les voisines, vous nous suivez en direct sur Twitter, 7 milliards RFI, c'est le compte Twitter, et vous nous appelez, n'attendez pas la fin de l'émission pour nous téléphoner, pour nous parler de votre accès à l'eau, pour vous, pour votre famille, 33 7 64 45 51 41. Je vous lis quelques messages qui sont postés sur nos réseaux sociaux. Mécontentement généralisé dans l'ensemble, y compris dans des pays qui mènent des politiques de l'eau, comme le Sénégal. Amat nous dit que dans son quartier à Kermassar, c'est-à-dire dans la banlieue de Dakar, dans le département de Pikine, l'eau de pluie stagne. On n'a pas de canalisation et ça amène les moustiques, donc le paludisme. Il y a aussi un problème d'accès à l'eau. Chez moi, les robinets sont fermés pendant 2 à 3 heures par jour. Il a donc des robinets dans à son domicile. À Touba, deuxième plus grande ville du pays, on a aussi de graves problèmes d'eau et d'assainissement sans aucune réaction de nos dirigeants, nous dit Amat. Idoumou est à Nouakchott en Mauritanie. En ces périodes d'hivernage, avec les marécages et l'absence d'assainissement, les eaux stagnent. La situation devient ingérable. Absence de politique fiable. Tous les efforts individuels seront vains. À Nouakchott, notre réseau était conçu pour à peine 150 000 habitants. On est aujourd'hui plus d'un million. Il faut une coopération Nord-Sud pour que les pays ayant une expertise sur le sujet nous viennent en aide. Et puis on a aussi un message d'Ange à Accra, au Ghana. Le problème ici, c'est l'entretien des bornes fontaines et puits de puisage. Il y en a beaucoup qui tombent en panne, ne sont pas réparés, ce qui oblige les populations à se tourner vers les rivières. Il faut mettre sur pied un système de suivi et de gestion des points d'eau potable, surtout aussi dans les zones rurales. C'est des sujets qui vous parlent, hein, ça, je pense, tous les deux, Thierry Bellassène.
Oui, non, tout à fait. Tout à fait, la problématique de l'entretien des bornes fontaines, la problématique
du gaspillage.
Des fuites d'eau. Et en fait, après les constructions, maintenir les constructions, c'est une problématique centrale. La gestion de l'eau, la gestion sociale de l'eau est une problématique. Beaucoup de questions. Est-ce que ça doit être privatisé? Quel rôle de l'État? C'est des questions qui sont au cœur de notre métier, des opérations qu'on met en place sur le terrain.
Arnaud nous poste aussi ce message. Il nous parle du Gabon, dans le quartier d'Abékéville à Libreville. Depuis 2009, l'eau n'arrive que par intermittence. Les pouvoirs publics sont au courant de cette situation. Rien ne change. Nous, on veut bien se laver les mains plus souvent, surtout avec le Covid-19, mais avec à peu près 20 litres d'eau par ménage et par jour, c'est pas évident. Pour nous, dans les pays riches, on n'a aucune notion de notre consommation d'eau au quotidien. 20 litres d'eau par ménage et par jour. Vous pouvez nous dire à peu près ce que ça représente, Sandra Métayer ?
C'est le strict minimum, en fait, pour l'usage quotidien de l'eau. C'est les standards qui sont fixés pour les crises humanitaires. 15 à 20 litres d'eau par personne par jour. En fait, après, au quotidien...
Ah, par personne, lui dit par ménage.
Oui, voilà. Au quotidien, en fait, on utilise bien plus d'eau que ça. Et je comprends le mécontentement, en fait, des auditeurs, de se dire qu'aujourd'hui, le droit humain à l'eau potable et à l'assainissement n'est pas respecté. Chaque être humain devrait avoir accès dans des conditions de façon permanente, physiquement, voilà, à portée de domicile, enfin au domicile ou à côté, et dans des conditions financières abordables.
Au moins dans le quartier, vraiment tout près du domicile. Rosnolt est à Port-au-Prince en Haïti. Il dit on a des difficultés pour se laver constamment, non seulement par rapport à l'eau disponible, mais aussi par rapport à sa qualité. Nous marchons des kilomètres pour avoir un petit galon d'eau pour le ménage. Un galon d'eau, c'est pareil, c'est un gros bidon, quoi, ouais. Grosso modo.
Exactement.
C'est l'eau la plus privatisée du monde, pratiquement, à Haïti.
Oui,
on a des camions qui arrivent et qui vendent l'eau en citerne.
Exactement, et avec des quartiers entiers, des villages entiers qui peuvent être complètement vidés d'eau, ou en tout cas ne pas avoir accès à l'eau, en fonction des problématiques d'accès à la route et d'accès aux zones. Donc on est vraiment sur un des pays, en termes d'accès à l'eau et à l'assainissement, les plus inégaux du monde.
C'est ça. Ça veut dire que l'eau, en plus, on la paye une fortune compte tenu de ses revenus.
Exactement. Exactement.
Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On a aussi beaucoup de messages concernant les zones rurales, les problèmes d'accès à l'eau dans les villages. Et bien sûr, on y viendra. Sandra Métayer et Thierry Benlassen, juste peut-être un petit mot sur l'état des lieux. Parce qu'on voit les chiffres qui augmentent, de plus en plus de personnes qui n'ont pas accès à l'eau depuis 10 ans. Est-ce que c'est à cause de la démographie qui va trop vite, que les efforts, les programmes, les chantiers n'arrivent pas à suivre ou pas ?
Alors, à l'échelle mondiale, on a quand même une amélioration de la situation. Mais effectivement, en Afrique, les chiffres sont assez alarmants, puisque avec la démographie croissante, des mécanismes aussi d'urbanisation, de bidonvillisation, on a de moins en moins de personnes qui ont un accès adéquat à l'eau et à l'assainissement. Donc par exemple, le manque d'accès à l'eau et à l'assainissement augmente au Nigeria, à Madagascar, au Niger, en RDC. On a de plus en plus de personnes qui pratiquent la défécation à l'air libre dans ces pays. Donc là, on va carrément dans une trajectoire inverse.
Ça veut dire que se laver tous les jours les mains avec de l'eau et du savon à son domicile, c'est quelque chose de rare, Thierry Benlassen ?
Alors, dans les grandes villes, ça devient une problématique de plus en plus forte. Les villes n'ont pas été pensées. N'ont pas été systématiquement pensées par rapport à l'afflux de personnes venant initialement des zones rurales et on a une grosse concentration qui se fait avec des réseaux d'eau qui ne suivent pas. Des réseaux d'eau qui n'ont pas été conçus pour ça et qui doivent être complètement repensés. Et c'est un peu là, je dirais, le côté très particulier, c'est qu'on voit une couverture en électricité qui augmente, avec des coupures régulières aussi, on va dire, dans les zones périurbaines, mais qui augmente. Une couverture au niveau téléphone, au niveau téléphonique qui augmente, par contre, l'accès à l'eau qui diminue.
Ouais, bah oui, mais il faut pouvoir brancher les smartphones hein, aussi. Donc l'électricité, ça devient le nerf de la vie quotidienne. Il y a plus souvent des manifestations pour l'accès à l'électricité qu'à l'eau, d'ailleurs.
Tout à fait.
On a deux campagnes présidentielles très médiatisées en ce moment en Afrique, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire. On parle un peu de l'accès à l'électricité, c'est vrai, mais est-ce que l'accès à l'eau, à l'assainissement, c'est un sujet qui revient dans les campagnes ?
Pas du tout.
Pas du tout.
Nous, c'est un constat qu'on fait, c'est que c'est une question qui n'est pas du tout priorisée au niveau politique. Les 195 États de la planète ont reconnu le droit humain à l'eau potable et à l'assainissement en 2010, mais il n'y en a que la moitié qui ont transposé ça dans leur législation nationale.
Comme droit constitutionnel, par exemple.
Soit dans les constitutions, soit dans les lois, en fait. Pas forcément au niveau constitutionnel. Il y en a qui l'ont fait, comme le Burkina Faso, par exemple. Mais la majorité, en fait, ne l'ont pas fait, ou de façon plutôt partielle. Donc, derrière, il n'y a pas de plan d'action qui suive, il n'y a pas de financement à la hauteur des enjeux, les moyens ne sont pas mobilisés.
Et pourquoi ce n'est pas priorisé ?
Alors, pour l'assainissement, nous, on estime que le problème majeur, c'est le tabou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un sujet embarrassant, ouais, c'est les basses fonctions de l'être humain, hein, aller aux toilettes. Donc forcément, pour un décideur, c'est pas glamour de faire une campagne sur les toilettes. Donc voilà, et c'est une question qui est renvoyée finalement à la sphère privée. on dit voilà, c'est aux ménages de s'en occuper.
L'assainissement, c'est pas que les toilettes, hein, c'est l'évacuation des eaux usées aussi, et qui, si possible, elles ne communiquent pas avec les arrivées d'eau propre.
Hein. Exactement, les toilettes, c'est vraiment juste le premier maillon de la chaîne, et pourtant, il y a déjà 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès au premier maillon. Donc,
mais voilà, pour le reste, pour l'accès à l'eau potable, pourquoi c'est pas priorisé, politiquement ?
Alors, parce qu'on pense aussi qu'il faut une pression plus forte, justement, des citoyens. Donc, vous parliez des campagnes présidentielles. C'est vraiment le moment, je pense, là, je m'adresse aussi à vos auditeurs, de revendiquer ce droit, en fait, humain à l'eau potable et à l'assainissement. Aujourd'hui, en fait, la demande des ménages, elle n'est pas assez forte. Pourquoi ? Parce que la plupart des ménages ne voient pas forcément les liens, en fait, entre le manque d'accès à l'eau potable et l'assainissement et les maladies. Et parce que aussi souvent c'est des investissements tellement lourds pour les ménages qui n'ont pas forcément la capacité de payer, qui vont pas en fait se mobiliser sur ce sujet.
Et il y a une forme de résignation, c'est-à-dire une habitude depuis des décennies de vivre avec très peu d'eau aussi.
Oui, enfin exactement. Et pour rebondir, la problématique de l'eau et de l'assainissement, c'est que c'est une problématique qui touche tout le monde, mais qui a la priorité de personne. Et on le voit dans tous les secteurs. On a une problématique, par exemple, de malnutrition dans un certain nombre de pays. 50% des cas de malnutrition sont dus, en grande partie, à une eau insalubre, à un assainissement insalubre. On a des problématiques épidémiques qui sont dues à l'eau. On a des problématiques économiques liées au fait que les ménages n'ont pas l'accès à l'eau propre ou alors à une eau et des sources d'eau trop éloignées. Et à chaque fois, on a cette espèce de problématique de fond qui est là, qui est l'eau, mais comme elle n'est pas saillante, comme ce n'est pas l'enjeu premier de tout le monde, bah personne ne s'en saisit et on laisse les choses un petit peu pourrir.
Ouais, en tout cas, nous, on ne laisse pas pourrir la situation. On a mis le sujet sur la table aujourd'hui et vous nous appelez, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. C'est le compte WhatsApp. Vous nous appelez gratuitement, anonymement. On vous donne la parole. Sien est en ligne avec nous de Bamako, Mali. Bonjour, Sien. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins. Vous habitez Bamako depuis 11 ans. Vous n'avez pas d'eau chez vous. Hein.
Oui.
Vous avez accès à l'eau où, dans le quartier ?
Oui, j'ai accès à l'eau dans mon quartier, mais pas chez moi à Dunkin.
D'accord. Quand vous dites dans le quartier, c'est, vous avez une idée de la distance par rapport à votre domicile ?
Dans à peu près 200 à 500 mètres.
Quand même, hein, de 200 à 500 mètres. Néanmoins, vous avez dit au Standard, Sien, que depuis que vous êtes à Bamako, vous avez vu une évolution, un progrès.
Oui, oui.
Expliquez-nous.
En fait, au début, là où j'habite, il y avait vraiment la difficulté d'avoir de l'eau potable.
Oui, bon, actuellement, on vous écoute. Allez-y, Sien, allez-y.
Oui, je disais... Au moment où j'habite le quartier Lassa, l'un des quartiers du district de Bamako, il y avait vraiment la difficulté d'avoir de l'eau à forte raison potable. Donc, il fallait faire des kilomètres pour avoir l'eau potable. Donc, actuellement, à travers la mairie et certains bailleurs, donc nous avons l'accès à l'eau à 500 ou 200 mètres comme ça. Parce qu'ils ont mis des forages à notre disposition. Donc par exemple, à travers la salle, il y a à peu près 5 à 6 forages comme ça. Donc nous pouvons avoir de l'eau facile, mieux maintenant qu'auparavant.
Alors aujourd'hui, vous avez dit au Standard que vous consommez 20 à 30 litres d'eau par personne et par jour, c'est ça ?
Oui, oui.
Vous payez... Actuellement,
Actuellement, une personne peut consommer 20 à 30 litres par jour. Sinon, auparavant, pour 20 ou 30 litres, il fallait 5 ou 6 personnes, hein.
Oui, d'accord. C'est-à-dire que le minimum vital, il était divisé par 6. Alors que là, vous arrivez tout juste au minimum vital. C'est ce que c'est les chiffres que vous nous avez donnés, Sandra Métayer. Et vous payez combien pour ces 20 à 30 litres ? Vous pouvez nous donner le prix par litre ?
Bon, 20 litres d'eau, nous coûte ici 15 francs, c'est vrai.
D'accord, ok. Donc ça fait 2 centimes d'euros pour 20 litres d'eau.
Oui, oui.
Donc c'est un tarif qui est réglementé. Vous payez à qui ?
Bon, c'est un tarif que nous-mêmes nous payons. à la personne chargée de la gestion du forage.
De la borne Fontaine.
Oui, oui.
D'accord. Vous êtes plutôt satisfait aujourd'hui de la situation par rapport à ce que vous avez vécu?
Oui, je suis satisfait aujourd'hui par rapport à la situation que nous avons vécue.
Mais vous voulez interpeller les autorités, je crois.
Oui, exactement. Donc, nous avons appris à travers le gouvernement qu'ils ont eu un fonds à travers le développement du Fonds africain pour le développement. Un prêt reçu par le Mali pour financer un projet d'approvisionnement en eau potable à travers Bamako et environ. Donc, si j'interpelle le gouvernement à bien gérer ce projet pour que la population de Bamako et environ puisse avoir de l'eau potable.
Merci Sien d'avoir été en ligne avec nous. Alors Bamako, la situation s'améliore, c'est pas le cas évidemment dans les zones rurales, Thierry Benlassen.
Alors ça dépend des zones, mais généralement sur les zones rurales, on a une problématique après des années de construction, de puits, de forages, en fait d'entretien de ces forages et de ces puits, un accès qui est souvent beaucoup plus distant. Les gens parcourent jusqu'à 10 km pour pouvoir avoir accès à de l'eau. Et c'est là-dessus où moi je veux rebondir par rapport à des commentaires des auditeurs, qui disent se laver les mains, c'est bien, par rapport à cette journée internationale du lavage des mains. Se laver les mains, c'est bien, mais encore faut-il avoir de l'eau. Et c'est souvent l'écho qu'on a sur le terrain, c'est-à-dire que les gens n'ont pas attendu les ONG pour savoir se laver les mains. La problématique, c'est accéder à l'eau, au savon, ou bien de première nécessité pour pouvoir justement mettre en place ces gestes barrières, mais devient un parcours du quotidien pour toutes les personnes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, une mère de famille dans le centre du Mali, ou à Kidal au nord, qui va avoir un accès à l'eau, pas forcément potable, juste de l'eau, on va dire, d'utilisation commune, va devoir faire jusqu'à 10 km pour pouvoir ramener deux bidons, ramener 20 litres à la maison. C'est à minimum 3 heures et demie aller-retour. On va vite se retrouver une problématique. C'est déjà, elle perd une demi-journée pour pouvoir faire ce trajet-là. Et quand l'eau est plus présente, les gestes barrières ne peuvent plus être mis en place. Donc, il va y avoir un rationnement obligatoire au niveau de la famille. Et c'est ça la problématique du lavage des mains. Ouais. C'est pas savoir le faire.
Et surtout, comment on fait pour travailler, pour avoir des ressources, si une grande partie de la journée est occupée à aller chercher de l'eau. Alors là, vous citez en plus des régions qui sont dans des situations de conflit. Je voudrais justement qu'on donne la parole à un autre auditeur qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Jeff est à Goma, à l'est de la RDC. Bonjour Jeff.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Alors vous avez dit au Standard que vous êtes à Goma et que vous vous estimez chanceux.
Oui, en effet. Alors, ce qu'il faut dire, que de façon générale, la Société nationale de distribution de l'eau, ce qu'on appelle la régie des eaux ici, est très en difficulté pour accomplir sa tâche. Il faut dire qu'avec l'exode rural qui a caractérisé les villes congolaises aujourd'hui, et un réseau de tuyauterie qui est resté le même, c'est-à-dire vieillissant et avec une couverture très moindre par rapport à la population des villes, la Société nationale de distribution d'eau n'est pas capable de fournir de l'eau dans toutes les parties de la ville. Alors, pour ce qui concerne la ville de Goma, où je vis actuellement, il faut dire que la ville et sa périphérie, qui est essentiellement rurale, a été relativement privilégiée par rapport à d'autres villes congolaises. Il y a quelques années, en effet, suite à l'émergence d'une épidémie de choléra, la ville a bénéficié de plusieurs programmes de financement de la part des bailleurs des fonds étrangers dans les domaines de la distribution de l'eau, qui a fortement amélioré la distribution et la qualité de l'eau dans la ville de Goma. Moi, par exemple, dans mon quartier, on est passé trois fois par jour chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai de l'eau pratiquement tous les jours qui coule dans mon robinet. Donc, il y a eu une forte amélioration grâce à ces financements. On a élargi la tuyauterie.
C'est ça. Quand vous dites que vous avez de l'accès à l'eau tous les jours, vous avez néanmoins quelques coupures d'eau dans la journée ou pas ?
Si, il y a quelques coupures. Il y a des coupures, mais au moins chaque jour, on a quand même de l'eau. C'est très différent. Avant, on avait pratiquement trois fois par semaine, hein, de l'eau.
Ah oui, de l'eau trois fois par semaine, d'accord. Vous estimez aujourd'hui, Jeff, que votre situation, par exemple, est meilleure que certains quartiers à Kinshasa ?
Oui, justement, moi, j'étais à Kinshasa il y a trois semaines environ. J'étais dans un quartier IP de la ville et on avait des lots qui, la nuit. Donc, je n'ai jamais vu de l'eau sortir du robinet pendant la journée.
Dans un quartier huppé de la ville, vous n'avez vu de l'eau sortir du robinet que la nuit. Merci beaucoup, Jeff. C'est intéressant, votre témoignage, de voir comment la peur d'une pandémie qui n'était pas là, le coronavirus, fait que tout d'un coup, il y a eu des programmes, il y a eu des financements qui sont arrivés. Je crois qu'à Goma, il y a eu notamment un financement de la coopération britannique de Mercy Corps, ONG internationale, qui fait qu'on a eu 300 000 personnes qui ont accès à l'eau potable par jour, 53 bornes fontaines construites. Je pense qu'il y a dû avoir d'autres financements aussi. Je voudrais aussi lire un autre message de la RDC, mais à Kolwezi, dans le sud du pays, même en plein centre de la ville, l'eau est très rare. Tous les jours, dès 4 heures du matin, on voit des jeunes filles de 8 à 18 ans avec des bidons de 25 litres auprès de robinets de personnes plus aisées qui ont des puits, des forages dans leurs parcelles, donc forages sauvages, hein, là aussi pas réglementés. Moi, je paie un bidon de 25 litres à 100 francs congolais, ça fait à peu près 4 centimes d'euros, c'est très cher. Hein. Parfois, dans la famille, on doit se laver à tour de rôle, et je ne vous parle pas du problème de déchets que ça cause avec des bouteilles plastiques qui traînent dans les rues et sans poubelle publique. Thierry Benlassen.
Bah, le commentaire de Jeff est très intéressant. Quand on parle de l'Est de la RDC, des villes de l'Est de la RDC, on a un exemple de projet de développement public sur des zones urbaines qui pouvaient être potentiellement instables, mais qui ont fonctionné. Jeff le sait, Goma, il y a encore 5 ou 6 ans, cet accès à l'eau, la situation n'était pas du tout la même. La même chose s'est passée à Kalemie, au sud-est, la même chose s'est passée à Beni. Il y a eu à un moment des investissements pour que un accès à l'eau régulé arrive dans ces grandes villes. Mais qu'est-ce qu'il a fallu attendre pour que ça arrive, que le choléra soit là et qu'on ait des taux de choléra juste hallucinants?
Parce que jusque-là, on disait la région est en conflit, c'est pas la peine de mettre en place des politiques d'accès à l'eau.
Exactement. Et c'est souvent le discours qu'on entend, c'est-à-dire on est sur une zone instable, c'est pas le moment d'investir des millions dans un réseau d'eau. Les gens ne comprennent pas, les bailleurs internationaux ont du mal à comprendre que mais c'est justement en investissant dans ces projets d'infrastructure qu'on arrive à avoir une limitation de la morbidité, donc une stabilité plus forte pour les populations, un recours à des ressources économiques plus fortes, etc., etc.
Alors justement, on donne la parole aussi à une ONG au Burkina Faso. Nous sommes en ligne avec Rukiatou Ouedraogo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Ouagadougou. Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes responsable plaidoyer pour le secrétariat permanent des ONG, hein, ce qu'on appelle le SPONG. Et vous vous occupez en particulier du droit à l'eau et à l'assainissement. Nos invités, il y a quelques minutes, si vous les avez entendus, Rukiatou disait Sandra Métayer, Thierry Benlassen. Mais finalement, les citoyens ne se mobilisent peut-être pas suffisamment sur ces questions-là comme des questions ultra urgentes, peut-être moins d'ailleurs que sur l'accès à l'électricité. Dites-nous, vous, comment, du point de vue des ONG, comment travaille la société civile sur ce sujet au Burkina Faso, notamment en plus parce qu'une partie du pays est en zone, on va dire, conflictuelle et que donc l'accès à l'eau, organiser des programmes d'accès à l'eau, c'est encore plus compliqué.
Exactement. Bonjour, merci beaucoup. Je voudrais dire qu'au Burkina Faso, il y a quand même une évolution sur la mobilisation des citoyens. Parce que nous nous sommes mobilisés pour l'inscription du droit à l'eau dans la Constitution. Et aujourd'hui, nous plaidons pour que ce droit-là soit effectif au jour le jour dans la vie des citoyens. Ce qui fait que vous allez remarquer au Burkina aujourd'hui quand même un engagement citoyen qui se manifeste. Nous avons aujourd'hui des plateformes sur les réseaux sociaux qui donnent la situation au jour le jour, qui interpellent les autorités. Nous avons pas mal de campagnes également qui sont conduites par les OSC, par les citoyens, pour mettre la main sur les défis que les populations rencontrent en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et récemment, vous avez vu tout le travail et de mobilisation que les vidangeurs, par exemple, ont fait pour interpeller le gouvernement sur le besoin d'investir sur les stations de gestion des boues de vidange. Parce que, voilà,
Les vidangeurs, juste pour décoder un peu pour nos auditeurs, hein, ce sont les personnes, d'ailleurs, ça donne, c'est vraiment créateur d'emplois. Hein, ce sont des gens qui, parfois, avec une simple charrette, vont vider des fosses septiques chez les particuliers. Ce sont des gens qui peuvent gagner leur vie grâce à cela, mais souvent, il leur manque des équipements, parfois même rudimentaires.
C'est bien cela. Et aujourd'hui, c'est un aspect sur lequel il faut continuer à pousser. Parce qu'on a beaucoup fait du plaidoyer pour l'accès à des toilettes dans les ménages, mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de ces toilettes sont remplies et c'est difficile de les vidanger et du coup, on retombe à la situation de départ, de manque d'assainissement.
Ouais. Restez avec nous, hein, Rukyatou Ouédraogo. Comme vous le dites, hein, il y a des progrès et puis parfois le manque de moyens fait qu'on retombe, on retourne en arrière. Quel accès à l'eau, eau potable à boire, de l'eau pour se laver les mains évidemment en période de pandémie, maintenir l'hygiène, de l'eau pour l'assainissement, c'est-à-dire pour les latrines, l'évacuation des eaux usées et qui ne contaminent pas si possible le réseau d'eau potable. Et tout ça à quel prix? On va en discuter, on va aussi parler des zones rurales. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble.
C'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Salut les voisins, moi c'est Désiré. Je vis à Lomé au Togo. Je suis dans une cour commune où nous avons un puits. Le puits dans lequel nous cherchons de l'eau pour nous laver et faire la lessive avec. Par contre, pour en consommer, on a les fontaines publiques qui sont un peu éloignées de chez nous. Donc, nous nous débrouillons avec les voisins qui ont pu avoir le branchement en eau potable de la société togolaise des eaux, la société qui s'acharge du traitement et de distribution de cette eau potable. Donc, nous donnons de l'argent et nous prenons de cette eau avec eux. J'ai l'espoir qu'avec la réduction des prix de branchement à l'eau potable, ça va changer quelque chose ici chez nous au Togo. Donc nous encourageons notre gouvernement à faire davantage pour que toute la population puisse en bénéficier. Merci à tous et bonne émission.
Et merci à vous, Désiré, pour ce message posté sur WhatsApp de Lomé au Togo. Voilà un voisin qui espère que quand il y aura le branchement, et ben finalement, il va payer moins cher son eau. On revient toujours aussi à la problématique du financement.
Complètement.
Sandra Métayer.
Ça, c'est vraiment un défi immense. Aujourd'hui, on aurait besoin, par an, accrochez-vous bien, de 114 milliards d'investissements pour avoir un accès universel à l'eau potable et à l'assainissement d'ici à 2030.
114 milliards de quoi ?
Par an. D'investissement.
Non, mais en fait, 114 milliards
de dollars.
De dollars, oui.
De dollars. Ça veut dire un triplement des investissements actuels. Et pourtant, les ménages font déjà un effort énorme pour pouvoir avoir accès à l'eau et à l'assainissement. Donc, il faut en fait que les budgets nationaux arrêtent de reléguer au second plan la problématique de l'eau et encore plus la problématique de l'assainissement. Et que l'aide internationale dont on a un petit peu parlé continue d'augmenter. L'enjeu, c'est que les personnes qui n'ont pas les capacités de payer aient un accès abordable à l'eau. En fait, on estime qu'un ménage ne devrait pas dépenser plus de 3% de ses revenus pour avoir accès à l'eau, à l'assainissement. Et malheureusement, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle.
Dans la réalité, alors ça c'est intéressant. Donc pour avoir un droit à l'eau, comme l'estiment les Nations Unies, il faut, ça, on ne dit pas qu'il ne faut pas que les ménages payent, il faut qu'ils payent, il faut que tout le monde paye un petit peu, bien sûr, mais pas plus de 3% de ses revenus. Voilà. En réalité, là, les prix que nous donnent les auditeurs, c'est beaucoup plus par rapport à leurs revenus.
C'est ça. Et donc l'enjeu, c'est de trouver des mécanismes financiers qui permettent en fait que la charge ne soit pas trop lourde sur les ménages. Je lisais un rapport des Nations Unies qui disait que pour l'instant, en fait, 60% du coût de l'accès, il est supporté par les ménages. À peu près 25% par les budgets nationaux, le reste, c'est de l'aide internationale. Donc en fait, l'effort des ménages, il ne faut vraiment pas le négliger. Et il faut trouver des mécanismes de financement qui permettent une répartition juste du coût de l'eau entre usagers, entre l'État, entre les transferts.
Et en même temps, on a des multinationales qui sont installées en Afrique et qui d'ailleurs sont contentes de s'installer en Afrique, hein, sinon elles n'iraient pas, personne ne les a obligées, et qui disent « Ah oui, mais on n'est pas payé ». Quand on se retourne vers l'État, l'État nous dit « Ah ben nous, on n'y peut rien, c'est les usagers qui ne payent pas ». Et les usagers, quand on leur demande, ils disent « Ah ben nous, pour le service rendu, on ne voit pas pourquoi on paierait nos factures d'eau ». Alors c'est le serpent qui se mord la queue, là. Qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, c'est encore une fois la question de l'investissement initial qu'on met sur les infrastructures d'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, relégué à la privatisation complète d'un réseau d'eau dans une grande ville, peut poser de vraies questions en termes d'investissement initial que l'entreprise va faire. Et donc, je dirais, de qualité du service et donc de possibilité de recouvrement des coûts. Et c'est pour ça que l'eau doit être un enjeu politique et pas juste un enjeu économique. Les deux vont ensemble. Il ne s'agit pas ici de fustiger les acteurs privés, parce que apporter un service de qualité a un coût. Et les acteurs privés d'accès à l'eau sont extrêmement importants. Mais tant qu'il n'y a pas de saisie politique du problème en disant « c'est un enjeu d'investissement pour le pays »,
alors, on va y revenir, hein, évidemment. On vous donne aussi la parole, vous, les usagers, les consommateurs. Vous nous appelez au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec Aminata, qui nous appelle de Bamako, au Mali. Bonjour, Aminata.
Bonjour.
Alors, racontez-nous quel accès vous avez à l'eau chez vous, pour votre famille, et combien vous payez ?
Nous, on est à Bamako. Je suis à Bamako.
Oui.
Ok, ici, on paye en moyenne 5 000 francs par mois.
Oui, 5 000 francs, c'est
fort. On est une famille de 12 personnes. Mm-hmm. Donc, mon mari ne travaille pas, moi non plus. Mm-hmm. Donc, on nous a coupé l'eau.
Parce que vous ne pouviez pas payer la facture de 5 000 francs CFA.
Oui. Donc là,
ça fait un peu moins de 10 euros. Ça fait un peu moins de 10 euros. Donc, j'imagine que si vous êtes sans revenu, c'est une facture qui est exorbitante.
Oui, c'est cher pour nous.
Oui.
Donc, on s'approvisionne chez les voisins qui a un forage à puits.
Mm-hmm.
Là, on prend l'eau pour se laver, pour à l'eau à boire et tout.
Vous donnez de l'argent au voisin, il vous vend son eau ?
Non, gratuit.
D'accord. Parce que lui, il a eu l'argent pour creuser son forage un peu sauvage quand même.
Voilà. Mais lui, il a l'eau courante de la Somagette. Il a aussi le forage.
Ah, il a les deux. D'accord. Le forage,
il a les deux, oui.
Le forage, c'est quand il y a des coupures d'eau, c'est ça ?
Non, le forage, c'est pour... l'eau courante, c'est pour à boire.
Oui. Et le forage, c'est pour le reste.
Non, le forage, c'est pour le reste, oui.
D'accord.
Mais il ne nous laisse pas prendre l'eau courante.
Ah oui, l'eau potable.
Donc, nous, on ne prend que l'eau de forage.
Oui.
Donc là, on a des barriques dans les douches, à la cuisine. On les remplit.
Mmh.
On avait l'habitude de le faire chaque deux jours. Mais il y a une semaine, j'ai remarqué que on stocke l'eau à boire dans les jarres en terre.
Oui.
Voilà, pour que ça soit frais.
Oui.
Donc, quand ça fait deux jours dedans, c'est vraiment frais parce qu'on n'a pas le frigo aussi.
Mmh, mmh.
Et il y a une semaine, j'ai remarqué que quand l'eau faisait juste 24 heures, il y avait des petites tétards dans l'eau.
Des algues un peu ?
Des tétards, des petites
des tétards.
Qui bougent.
Pardon.
Oui.
D'accord. Mais cette eau, donc, évidemment, elle n'est pas potable, ça vous le savez, puisque c'est l'eau
potable.
Du forage. Hein.
Oui. Oui, ce n'est pas potable du tout. Donc maintenant, on ne peut pas, on n'a pas d'eau fraîche, quoi. Donc, chaque jour, il faut qu'on enlève toute l'eau de la jarre pour aller reprendre de l'eau pour remettre dedans.
Oui. Évidemment,
donc on paye des sachets de Aquatab, des petits comprimés qu'on met là-dedans, ouais, pour boire.
Et là, c'est encore des dépenses et des efforts énormes pour vous au quotidien. Aller chercher de l'eau, la jeter parce qu'elle n'est plus bonne.
Ouais. C'est vraiment difficile.
On a bien compris. Merci beaucoup Aminata pour ce témoignage édifiant de la gestion de l'eau d'un ménage de 12 personnes au quotidien. Thierry Bennassen.
C'est un métier.
Ça devient
un métier. Et alors, c'est une problématique universelle. Hein. Vous serez étonné de savoir qu'en France, on a exactement des problématiques similaires sur certains quartiers, sur certaines zones de non-droit. Donc, c'est vraiment une problématique universelle. À partir du moment où on n'a plus les revenus pour pouvoir accéder à l'eau, bah, en fait, ça devient un enfer à gérer au quotidien.
Et de plus en plus cher aussi pour les usagers, hein, qui dépensent des sommes folles pour s'approvisionner en eau. La déclaration de N'Gor, elle dit quoi, Sandra Métayer, en termes d'obligation politique pour les États, d'engagement politique?
Oui, c'est plutôt un engagement. Malheureusement, c'est ça aussi, c'est qu'on a très peu de textes contraignants, finalement, pour les États. Donc, c'est des déclarations d'engagement de la part des gouvernements, mais qui ne sont absolument pas respectées. La déclaration de N'Gor, elle dit que chaque État devrait créer une ligne budgétaire spécifique pour l'assainissement, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle, et que les États devraient dépenser 0,50% de leur PIB pour l'assainissement. Et en fait, pour l'assainissement. Et malheureusement,
à l'heure actuelle... 0,5% du PIB. Voilà, c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Compte tenu, je sais pas, si on prend
pourtant,
la ligne budgétaire de l'école, c'est beaucoup plus.
Et pourtant, à l'heure actuelle, il me semble, 2 ou 3 États à l'échelle du continent qui ont atteint leur engagement. Donc, il y a vraiment besoin d'un réveil, d'une mobilisation politique plus forte. Parce que quand on entend ce témoignage, il n'y a aucun critère du droit à l'eau qui est respecté. L'eau n'est pas potable, l'eau n'est pas à domicile, et en plus l'eau est à un coût inabordable. Comme vous le disiez, en fait, quand on est pauvre, c'est vraiment la double peine, parce qu'on n'a pas accès chez soi, mais en plus on paye jusqu'à 10 fois plus cher son eau, parce qu'on est obligé d'acheter des sachets d'eau, de l'eau en bouteille. Donc voilà.
Une réaction d'un auditeur, Jean, qui est togolais, qui vit en Allemagne. Je suis choqué qu'un de vos intervenants demande si la population manifeste, car l'accès à l'eau est un droit. Pas besoin de manifester, ça devrait être la priorité des gouvernements. On est bien d'accord. Alors, Rukyatou Ouédraogo, vous qui travaillez pour une coalition d'ONG au Burkina Faso, comment vous faites pression pour que l'État dépense plus d'argent pour l'accès à l'eau, notamment avec des programmes, avec des chantiers?
Oui, c'est vrai, c'est la question du financement, c'est une des thématiques de plaidoyer prioritaire chez nous. Et aujourd'hui, nous portons le plaidoyer déjà pour que l'État investisse plus pour couvrir les populations non couvertes, mais aussi pour que l'État investisse pour assurer la continuité du service pour les populations qui ont déjà accès au point d'eau. Parce que le constat est qu'il y a trop de coupures d'eau sur les espaces même où il y a déjà l'approvisionnement. Mmh. Cela veut dire qu'il y a un problème dans la capacité de gestion et des infrastructures existantes, et il y a la capacité aussi de gestion et de traitement de l'eau. Mmh. Donc nous plaidons pour plus de budget pour le secteur de l'eau et de l'assainissement.
Vous avez entendu cette auditrice qui est à Bamako, donc un pays voisin, qui disait, bon, elle paye pas ses factures, elle a plus d'accès à l'eau du tout. Elle a un voisin qui a l'eau de la société publique d'eau et qui a aussi un forage. Est-ce que, je voudrais avoir votre avis, est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de gens, enfin quand ils ont les moyens financiers, qui creusent dans le jardin, dans la parcelle, est-ce que c'est un facteur de désordre pour l'accès à l'eau, pour organiser un réseau bien développé, bien organisé, le fait qu'il y ait aussi des forages sauvages? Rukyatou.
C'est un facteur pour sauver des vies. Je vais dire comme ça, parce que ces personnes qui font des forages à domicile et qui les rendent ouverts aux citoyens, contribuent quand même à aider ces populations en difficulté. Mmh. C'est vrai que ça doit être réglementé, ça doit être suivi, parce qu'il se pose la qualité de l'eau. Est-ce que l'eau qu'on prend est vraiment potable? Est-ce que c'est traité? Mais malheureusement, c'est la triste réalité sur le terrain. Et c'est pour cela, nous pensons que voilà, la responsabilité
c'est au niveau des autorités politiques. Mmh. Et nous plaidons pour qu'il y ait plus d'investissements publics dans le secteur de l'eau afin de garantir l'accès à tout le monde.
Et une meilleure rationalisation, Thierry Benlassène, sur ces histoires de double circuit, là?
C'est un peu la problématique, surtout avec la concentration démographique. Alors c'est complètement compréhensible que quand les services ne sont plus accessibles, les gens creusent. Creusent des puits, creusent des forages. La problématique, c'est que les ressources hydrauliques, elles sont limitées. Et si on n'a pas une logique de rationalisation, d'optimisation, en fait, on continue d'aggraver le problème. Et c'est ce qu'on a vu hein, sur des villes, notamment dans le Sahel et sur les pourtours du lac Tchad, par exemple, où pendant des années, alors, d'un point de vue humanitaire, des forages ont été creusés dans tous les sens pour pouvoir justement répondre à des besoins alimentaires de grandes populations qui arrivaient sur des zones. Jusqu'à un moment, on se dise, en termes de responsabilité collective, on est en train de vider les ressources en eau d'une zone. Donc il faut faire extrêmement attention là-dessus.
Ça, c'est un message à faire passer aux États, pas aux usagers évidemment, qui, comme nous le disait Rukiatou, sont dans la survie. Vous nous le disiez, Sandra Métayer, les contributions financières des bailleurs de fonds, évidemment, c'est très minoritaire, c'est autour de 20-25% dans la totalité de la facture, puisque la majorité de la facture, c'est l'usager qui la paye aujourd'hui à 60%. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des conditionnalités de la part des bailleurs de fonds, comme pour le secteur de l'éducation, où on dit au pays, soit vous augmentez vous-même vos dépenses, votre ligne budgétaire du PIB sur l'accès à l'eau, pour qu'on puisse nous aussi apporter des financements. Est-ce qu'il y a des conditionnalités ou pas du tout?
Oui, il y a tout un tas de conditionnalités qui sont négociées en fait entre les pays bailleurs et les pays récipiendaires de l'aide internationale. Alors c'est même moins que ça, c'est à peu près 10% du financement de l'eau à l'heure actuelle, c'est 9 milliards de dollars par an qui sont investis par les bailleurs nord. Donc il y avait un auditeur tout à l'heure qui disait que la coopération nord-sud est importante. C'est aussi quelque chose qu'on pousse. Le problème majeur en fait qu'il faut voir avec l'aide internationale à l'heure actuelle, c'est qu'elle n'est pas ciblée vers les pays qui ont les plus forts besoins, puisqu'elle est majoritairement réalisée sous forme de prêts. Vous aviez des auditeurs qui disaient que des prêts sont faits à l'heure actuelle pour les services dans les capitales. Le problème des prêts, c'est qu'on oriente les financements vers les pays solvables. Et vers les zones où effectivement les ménages aussi sont solvables. Donc on laisse de côté les zones rurales, les quartiers périurbains, bidonvilles, etc., les zones de crise, de fragilité, etc. Donc là où les taux d'accès sont les plus faibles. Donc ce qui, pour résoudre ce problème, il faut faire passer le message aux bailleurs que l'aide internationale doit être mieux ciblée pour répondre plus efficacement en fait, aux enjeux.
Rukiatou Ouedraogo voulait ajouter quelque chose aussi sur cette conclusion en quelques mots?
Oui, je dirais qu'il faut vraiment que l'aide internationale et même les budgets nationaux puissent être orientés vers les zones défavorisées, vers les zones vulnérables. Et aujourd'hui, au Burkina, on sait tous les défis qu'il y a en matière d'accès pour les personnes déplacées qui se retrouvent avec beaucoup de pression en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Et il y a un travail de plaidoyer également qui est fait dans ce sens pour que les réponses humanitaires intègrent vraiment la question de l'eau et de l'assainissement dans les priorités d'investissement.
Thierry Benlassène.
8% des besoins humanitaires en eau et assainissement qui sont couverts en termes de financement. On est l'un des secteurs les moins couverts.
8% des besoins
tout à
couverts
fait. Exactement.
En eau et en assainissement.
En termes de financement.
Il y a encore du boulot.
Il y a encore du boulot et on le dit, on le répète et on continuera à le dire. N'oubliez pas aussi, dans le développement de ces infrastructures, les zones de conflit. Les zones de conflit qui continuent d'avoir des besoins et sur lesquelles la réponse d'urgence dont on parle toujours, en fait, n'est juste qu'une partie immergée de l'iceberg. Aujourd'hui, les gens ont besoin de réponses beaucoup plus long terme, de vraies infrastructures. Et ça, on peut le faire.
Le manque d'accès à l'eau peut aggraver les conflits?
Ah, complètement. Elle peut même les créer, comme c'est le cas par exemple sur certaines zones du Sahel, où les conflits autour des ressources hydrauliques sont majeurs. Et au-delà de ça, ça peut empirer un conflit ou une situation de conflit. Typiquement, quand vous avez un village entier qui se déplace, chassé à cause d'un conflit quelque part, ça va être une pression supplémentaire sur une population qui avait déjà des ressources en eau limitées. Et donc, on va avoir des conflits entre communauté accueillante et communauté déplacée. Ça, c'est le quotidien. Tous les jours, c'est une discussion qu'on a au niveau humanitaire.
Je terminerai l'émission en lisant deux messages. J'avais dit que j'allais lire aussi des messages d'auditeurs qui nous ont posté, nous parlant de zones rurales, hein, parce qu'on a beaucoup entendu en direct nos auditeurs qui sont dans les villes sur le continent africain. Mais Drissa, en Côte d'Ivoire, nous dit que dans les villages, les pompes hydrauliques n'existent pratiquement pas. Il n'y a pas d'entretien des marigots, c'est-à-dire des petites mares et sources de breuvage, ce qui occasionne des maladies comme la diarrhée, choléra, etc. L'État dépense des millions pour faire face, mais mieux vaut prévenir que guérir. Il faut construire plus de pompes, ou encore Ismaïla qui est en Mauritanie, dans la zone de Brakna au nord du pays, il y a un manque d'eau potable. Les habitants de cette zone rurale utilisent l'eau des lacs à proximité pour survivre. L'État ne parle pas des impacts sanitaires et ne met aucun moyen financier pour remédier à cela. Voilà, et bien merci à tous les trois, Sandra Métayer de la coalition Eau. On se retrouvera peut-être pour le Forum mondial de l'eau qui se déroulera peut-être à Dakar et peut-être en mars. Thierry Benlassen, merci aussi de Solidarité Internationale et merci à Rukiatou Ouedraogo du secrétariat permanent des ONG au Burkina Faso, et merci à toute l'équipe. Dans quelques instants, le journal sur RFI. Et avant, je vous donnerai bien sûr le programme de demain, mais tout de suite, allez, une gorgée fraîche avec Africa Express.
Other's fault. If you got ammunition, then I can't say shit. If you go doing something, then I must compete. Where will this lead us to? 'Cause I'm still in love with you. Now, where will this lead us to? Thought it would be the ultimate. Where will this lead us to? 'Cause I'm still in love with you. Now, where will this lead us to? Thought it would be the very sorry, babe. Ogunza no my yeah, on your territory, babe. You're my callie day, mama, you're my glory, ay. My corner when I bay, it's a holiday. Oh, Vala wanna bay. You're my bunny, I'm your Clyde, Siabangana, ay. Siabangana, ay, ay, Siabangana, ay. You be singing on the alto, I be tenor, ay. Future babe, future wife, every day, all my life, sugar love.
Demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, place à des solutions pour lutter contre le chômage de longue durée. On parlera d'une expérimentation en France passionnante, Territoire zéro chômeur, testée depuis 4 ans, qui va être étendue sur 50 territoires, parce que lutter contre la pauvreté, c'est d'abord retrouver une place dans la société par le travail. À demain, les voisins et les voisines.